Et voilà.
Mais tu m'as menti, tu m'as dit que ça changeait à la fin.
C'était
il est espiègle.
C'était le morceau Waiting de The Shits. Donc c'est un groupe de Leeds voilà, qui vient de sortir un album le 14 avril voilà, qui s'appelle You're a Mess.
You're a Mess, you're such a mess, man.
C'est ça. Donc des caca de The Shits.
The Shits.
Voilà. Et okay. C'était le dernier morceau.
Ben, c'était vachement bien. Hein.
C'était un riff. Tout du long. Et
c'était
merci.
Cool. Merci yes. De nous avoir écoutés. Merci d'être fidèle au poste. Pas d'émission.
Au poste de radio.
Au poste de radio, bien sûr. C'est pour ça qu'on dit ça.
Ah oui, d'accord. Ah.
Et ouais.
D'accord. Moi, je pensais que c'était fidèle au bureau de poste.
Ou au poste de police.
Ah.
Nous, on est fidèles au poste.
Ouais.
On les connaît bien là-bas. Sûrement pas d'émission la semaine prochaine. Du coup, toutes nos excuses. On a des indisponibilités, voilà.
Des contrabilités.
Ouais. Mais c'est pour mieux vous retrouver dans deux semaines avec plein de nouvelles dates et des petits coups de cœur à vous partager. Voilà. D'ici là, on espère vous voir à tous les concerts qu'on vient de vous annoncer. Pas mal de dates à venir, donc voilà, il n'y a pas de quoi se plaindre.
Donc toujours à suivre sur le site d'En veux-tu en v'là.
Tout à fait.
Envla.org. Voilà. En-vla.org ou bien. Juste taper en veux-tu en v'là sur Google, ouais, ça n'importe quel moteur de recherche, vous allez trouver direct. Et voilà, 8 dates ce mois-ci.
8 dates, les gars.
Donc accrochez-vous.
Ouais. bisous à tout le monde, à bientôt.
Yes, à bientôt. Et merci aussi, merci Johan.
Merci
à plus. Oui, bisous.
Le président, madame Chirac, Bernadette. Sur vos roues, j'ai perdu mes dents. Sur vos roues, j'ai vu la fête. Le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins. Le vent, j'ai dessiné en 1027. Interrogez les rues d'un gars, sans oublier rue de Lafayette. Ils vous diront, il faut avoir un grain. Si les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite. Je n'ai jamais dit que j'étais sain, je conduisais une camionnette. Sincèrement, j'ignorais le tard. Cela peut arriver au prophète. Monsieur le président, madame Chirac, Bernadette. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains. Ou moi, cassez les lunettes. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perds la tête. La rage. Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me petit futur, la voix sous de la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Et m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à la marche ou crève. Le seul moyen de dire au public que je n'y aurais cyanure. Ici, ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes du Toutry-Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musée, le rajah de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, j'entends Hitler. Mon père, il a défendu la source et les artères. Dans les tenues de son fils numéro 1. Mes excuses, les lésés, si j'ai plus de freins. Si je laisse le moisi, adieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage. Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me petit futur, la voix pour de la preuve. La rage. Je vous fais serment devant le juge. Tu juges ceux qui m'ont jugé tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin. Il a rien aux yeux, tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, s'agit des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir. Je leur envoie des câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés. J'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'Anan m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui aussi c'est vrai qu'Anan, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu éviter sa banane, m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance, mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage. Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande. demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me tuer futur, l'angoisse trouve la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me tuer futur, l'angoisse trouve la preuve. La rage.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM, en région parisienne et sur le net pour le reste du monde. Aujourd'hui dans Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel, nous recevons Romain Altman et nous allons parler Caisse de Grève. Romain, bonjour.
Bonjour.
Alors Romain, est-ce que tu pourrais te présenter et présenter la Caisse de Grève que tu coordonnes, on va dire?
Alors, Romain Altman, je suis secrétaire général du syndicat CGT qui s'appelle Infocom CGT, donc un syndicat dédié au métier de l'information et de la communication. Et je suis coordinateur de la Caisse de solidarité depuis sa création, puisque c'était une initiative créée en 2016 par notre syndicat et qui s'est depuis élargie, étoffée et qui est gérée avec un autre syndicat sud qui s'appelle Sud Post 92. Que beaucoup d'auditeurs, je pense, connaissent et que nous animons ensemble depuis maintenant quelques années.
Alors, Romain, est-ce que tu pourrais donner quelques indications sur ton parcours personnel pour que les auditeurs de Pas de Quartier te connaissent un peu mieux et comprennent ta démarche? Comment tu es arrivé à devenir le coordinateur de cette caisse de solidarité et non pas de grève, puisque tu préfères...
Oui, alors il y a des débats autour de ça.
On aura le temps d'expliquer la nuance.
C'est intéressant. Moi, mon parcours, il s'inscrit dans une filiation en partie familiale, donc puisque je suis partagé entre un enfant de parents certains, enfin ma mère communiste et mon père plutôt de droite, on va dire, ou plutôt, enfin, qui était patron dans l'imprimerie d'ailleurs à l'époque. Et au fil et à mesure des années, je me suis engagé dans le syndicalisme et également aussi en politique, mais surtout dans le syndicalisme, avec les premiers mouvements qu'on appelait à l'époque contre le SMIC jeune, qui était sous Balladur, et qui ont été mes premières armes et qui, de fil en aiguille, m'ont donné envie de m'engager principalement dans le syndicalisme avec la CGT, dans le but de donner un sens à ma vie. Je pense que c'était important, et surtout parce que, comme beaucoup, je pense, je supporte pas les injustices, donc ça a été en tout cas un peu le cheminement de mon parcours, en tout cas personnel, dans cet engagement, et qui s'est traduit professionnellement par un engagement professionnel autour des métiers de la presse et de l'imprimerie, puisque je viens de ce secteur-là au départ. Et j'ai été donc salarié successivement à l'Imprimerie Nationale, et puis après principalement au journal Le Monde, dont je suis détaché aujourd'hui pour m'occuper du syndicat à 100%, comme nous le permet encore, dans certains endroits, certains moyens syndicaux que l'on a.
Parfait, Romain. Alors, merci pour ton parcours. Alors, dans le journal Les Échos, je lis Les Échos, oui, il faut lire la presse de ses adversaires.
Toujours.
On apprend des choses intéressantes. Et ne fut pas ma stupéfaction, le 7 mars, à 9h56, en ligne, de voir une dépêche reproduite par Les Échos, remaniée un tout petit peu, mais reproduite de l'AFP, avec comme titre « Retraite de poids, le retour en force des caisses de grève ». Tu es cité dans cette dépêche, et surtout, Les Échos s'émeut du fait que les caisses de grève ont le vent en poupe.
Eh ben, tant mieux si ça leur donne des poussées d'urticaire.
Voilà. Et sur la lancée médiatique, le 10 mars, dans Mediapart, le spécialiste des caisses de grève qui fait une thèse là-dessus, comment il s'appelle alors,
Gabriel Rosenman.
Gabriel Rosenman, voilà. A donné une interview à Cécile Hautefeuille, et l'article s'intitulait « Le renouveau des caisses de grève répond à l'endurance du pouvoir ». Est-ce que tu es d'accord avec cette affirmation ?
Je pense en tout cas que les caisses de grève ou les caisses de solidarité, selon quel sens on lui donne, deviennent dans la période un outil essentiel à la lutte. Elles ne remplacent pas la lutte, c'est tout le débat qu'il faut qu'on ait d'ailleurs aussi sur la fonction que peuvent avoir les caisses de grève ou les caisses de solidarité. Mais je ne sais pas si c'est lié directement à une endurance du pouvoir. Ce qui est sûr, c'est qu'on est face à des pouvoirs politiques qui nécessite d'avoir des luttes beaucoup plus dures et beaucoup plus longues, peut-être qu'à d'autres époques, où il n'est pas exclu que, si on prend l'exemple de l'actualité qui nous concerne, le pouvoir soit jusque boutiste, lui, dans sa démarche. Et donc, face à ça, il y a nécessité d'opposer une véritable lutte de classe qui soit vraiment ténace et qui soit pugnace, pour lui faire face. En voilà. Ça, je pense qu'effectivement, les caisses de solidarité remplissent un rôle important qui n'existait pas ou qui existait moins depuis ces dernières décennies, qui reviennent sur le devant de la scène sociale parce que c'est un des moyens permettant de faire face à cette radicalité du pouvoir d'un gouvernement comme celui qu'on a, mais il y en a eu d'autres avant, hein, qui nous permet de dire que sans ces outils-là, sans cette force que nous donnent les caisses de grève, on ne pourrait pas lui tenir tête, ou en tout cas, on ne pourrait pas espérer le mettre en échec.
Alors, il y a deux exemples sur lesquels vous vous êtes illustré. Il y a la grève de 22 mois des femmes de ménage de l'hôtel Ibis Batignolles et la grève des postiers qui a duré 15 mois, les postiers du 92. Est-ce que tu pourrais revenir sur ces deux conflits majeurs qui ont marqué, parce que la grève des femmes de ménage, on les a reçues à Radio Libertaire, elles étaient emblématiques. C'était le premier conflit depuis mai 68 qui a duré et elles ont obtenu victoire surtout.
Complètement. Et c'est ça qu'il faut retenir et qu'il faut valoriser. C'est les deux exemples que tu donnes sont intéressants parce qu'en fait ils illustrent à eux deux, en prime abord, une radicalité et une détermination de ces salariés, de ces deux entreprises, qui a été infaillible pendant de si longs mois. Et c'est d'abord ça qu'il faut noter parce que quand on a la détermination et quand on en a la volonté, ça montre qu'on peut gagner. Le combat qu'ils ont mené, et de notre point de vue en tout cas, a été exemplaire dans la démarche qu'ils ont eue d'arriver à construire durant des semaines et des mois une lutte sans faille. Et quand on a vu ça à l'époque de ces deux situations qu'avaient comme espoir toutes les deux d'obtenir victoire, ça nous a interpellés parce qu'on s'est dit justement comment nous de l'extérieur on peut venir en aide à des camarades ou des collègues qui sont en grève comme ces conflits ont pu le démontrer pendant de si longs mois, si ce n'est qu'effectivement en leur apportant un soutien moral. Et, en tout cas pour nous, d'arriver à apporter un soutien financier. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à l'époque, sur ces deux conflits emblématiques, la Caisse de Solidarité, dont on connaissait d'ailleurs pas forcément les camarades, hein, pour être tout à fait franc, on connaissait déjà Sud Post 92, mais on connaissait pas les femmes de chambre de l'Ibis Batignolles, nous a poussé à dire qu'on pouvait pas rester les bras croisés, ou on pouvait pas juste rester en position de soutenir moralement ce conflit, mais d'essayer d'aller plus loin et d'organiser une collecte pour elles, afin de les aider financièrement, parce qu'on sait que dans ce bras de fer, ce qui est déterminant, c'est de pouvoir tenir sur la durée. Et cette caisse de grève, en l'occurrence, elles en avaient une, elles, en interne, grâce à leur syndicat CGT-HPE, qui les a permis de les soutenir si longtemps. Mais le coup de pouce qu'on a pu leur apporter, et c'est tant mieux, leur a permis de tenir aussi dans la durée. En ça, on en est quand même objectivement fiers, parce que c'est un combat surtout victorieux. Et c'est ça qu'il faut retenir.
Alors, HPE, ça veut dire Hôtel de Prestige Économique.
Économique, c'est le syndicat CGT dont sont membres les femmes de chambre de l'hôtel Batignolles, et qui était reconnu pour justement mener des grèves dures, surtout dans des publics qui sont financièrement pas les plus simples, parce que c'est pas forcément des hauts salaires, c'est des petits salaires. Mmh. Et donc en ça, à tout point de vue, la Caisse de Solidarité était fière de pouvoir aider ces camarades-là. Donc il y a à la fois une conviction de classe, hein, clairement, hein, de défendre notre camp et de ne pas rester simplement spectateur d'un conflit qu'on peut voir à la télé, qu'on peut voire dans les médias des fois dont on parle, mais vraiment d'allier le discours aux actes en disant écoutez les camarades, on va venir et on va vous montrer déjà que vous n'êtes pas seul et que même si le combat est dur, parce que c'est quand même long, hein, c'était pour
22 mois
pour les camarades dont on parle, c'est quand même énorme, montrer en tout cas que de l'extérieur on pouvait aussi apporter une contribution dans ce mouvement. En l'occurrence, pour nous, c'était une contribution financière leur permettant de tenir.
Alors, et pour les postiers du 92?
Alors, les postiers du 92, c'était un peu différent parce que donc on a eu la joie de, enfin j'ai eu personnellement l'honneur et la joie de rencontrer Gaël Quirante et ses camarades Xavier et bien d'autres lors du conflit contre la loi travail en 2016. Mm-hmm. C'est d'ailleurs comme ça qu'on les a connus puisqu'on se connaissait pas. On n'est pas des mêmes réseaux, on n'est pas des mêmes milieux forcément politiques et on a eu clairement très vite
des convergences
à la fois de lutte de réflexion aussi stratégique sur la manière et les limites que l'on critique hein, d'ailleurs qu'on les critiquait en tout cas en son temps de la stratégie syndicale qui était à l'œuvre. On parle principalement des confédérations hein, syndicales qui menaient la lutte en l'occurrence à l'époque contre la loi travail. Et où, au fur et à mesure du temps, dans nos diversités, parce qu'on n'est pas forcément d'accord sur tout, mais on a cette conviction commune et ça, c'est une rencontre qui a été une très belle rencontre. Enfin, moi, en tout cas, c'est une rencontre qui m'aura marqué dans mon expérience militante et qui aujourd'hui ne se dément pas, puisque au bout de 7 ans, on est toujours
ensemble,
main dans la main dans tous les combats, mais dans un certain nombre de combats, dont celui de la lutte qu'on veut mener et avec la Caisse de solidarité et qui montre vraiment que c'est bien de s'ouvrir justement à d'autres formes d'engagement politique qui sont déjà pas forcément les mêmes qu'on peut avoir ou même dans le syndicalisme d'ailleurs hein, de rester entre soi, de rester entre nous. Je trouve justement que Info comme CGT dans sa démarche a très vite depuis sa création était pour un syndicalisme ouvert et rassemblant tous les gens qui essayent de se battre, même si les formes de lutte peuvent être différentes, mais qui sont sur une base de lutte radicale et qui correspond, en tout cas, à la situation dans laquelle on est, c'est-à-dire à un pouvoir qui est de plus en plus radicalisé et une finance qui est de plus en plus véhémente et qui veut détruire tous nos conquis sociaux. Donc c'est en ça que ce combat nous a réunis, en tout cas.
Alors, tout le monde le reconnaît, votre démarche, elle est interprofessionnelle et elle est inédite. Même le fait de l'avoir mis sur Litchi, ça n'a l'air de rien, mais ça a reboosté.
Alors,
ça...
c'était pas Litchi, c'était à l'époque le pot commun, mais c'était une plateforme à peu près équivalente.
Voilà.
C'était en tout cas, au départ, pas forcément réfléchi, je vais pas le mentir, hein, je vais pas dire un scoop aux auditeurs, mais c'est le choix de la plateforme, au départ, c'est fait un peu par hasard, parce que on a eu cette idée de créer cette caisse de solidarité au départ, un soir de manif au mois de mai, on était nous-mêmes en grève, hein, et on s'est dit, mais comment on peut aider les grévistes, au-delà du fait de faire les manifs, on avait énormément de grèves qu'on conteste. Hein, d'ailleurs aussi aujourd'hui, comme on appelle des grèves saute-mouton, donc c'est-à-dire des grèves d'une journée, puis après plus rien pendant plusieurs jours, voire des fois des semaines. Et donc, un peu par hasard, j'ai pris l'initiative de créer sur le pot commun à l'époque, qui est une plateforme équivalente à Litchi, l'idée de créer un fonds. Alors, pour ne rien vous cacher, cette initiative avait été prise avec les camarades du secrétariat du syndicat à l'époque, un peu par hasard. Je veux pas faire ici une grande théorie sur sa création, mais elle ne révèle pas en tout cas le fruit de longs débats, puisque c'était une initiative un peu ponctuelle et où on espérait avoir quelques centaines ou quelques milliers d'euros pour juste venir en aide. À l'époque, c'était aux raffineurs, c'était à eux qu'on pensait, dans le cadre du conflit qui était très engagé, très impliqué.
Alors, ça a été un tel succès qu'ils ont même reversé
la
somme.
On a eu énormément de dons et c'est vrai que je me rappellerai toujours de ce moment où donc c'était le 24 mai 2016 où au moment où on met le lien donc sur les réseaux sociaux, enfin en l'occurrence principalement Facebook, et je sais pas, peut-être 3-4 minutes après, une déferlante mais de dons. Je pense qu'on a senti quelque chose qui correspondait à un besoin à ce moment-là.
Tout à fait.
Et qui révélait quoi? La nécessité de moderniser les caisses de solidarité, les caisses de grève.
La collecte plutôt.
Oui, alors en tout cas, c'était l'idée de collecter des dons en vue d'aider des grévistes et qui a renouvelé le genre d'une pratique très vieille, hein, très ancienne. Les caisses de grève, ça existe depuis...
Le 19e siècle.
Voilà, c'est très très long.
Ça, ça existe depuis que la grève existe, en fait.
Exactement, c'est l'idée de... Alors, dans mon syndicat, on a une très longue histoire parce que mon syndicat est en tout cas un syndicat qui est très vieux, qui est né même avant la CGT, puisqu'on est un syndicat des typographes à l'origine, donc de la presse. Donc on est né à une époque où les syndicats n'étaient encore pas légalement reconnus.
1864.
Voilà, donc pour nous ce qui nous concerne, on est né en 1839, mais voilà, l'idée c'est qu'il y a eu finalement un retour aux sources, sans le savoir finalement, d'une pratique solidaire pour aider alors à la fois des grévistes. Alors là en l'occurrence, nous on a élargi le spectre de la caisse de solidarité en faisant un outil national et interprofessionnel sur une plateforme numérique et qui ne venait pas, et ça c'était par contre la nouveauté, qui ne venait pas en aide qu'aux adhérents de l'organisation.
Oui.
Il venait en aide à tout le monde, c'est-à-dire toute personne qui était en lutte. C'est ça qu'on voulait construire, c'est de dire, peu importe ton syndicat finalement, ce qui compte pour nous, c'est que tu sois en lutte. Parce que
2 jours d'affilée minimum.
Voilà, c'était les principes de base. C'était de faire un minimum de 2 jours de grève consécutive pour justement t'aider et de dire que tu sois à la CGT. Évidemment, à titre personnel, je préférerais qu'il le soit, mais que c'était pas un handicap et on voulait pas diviser le mouvement ouvrier avec une question de chapelle syndicale. On est tous fiers d'être dans nos organisations, j'imagine, ou en tout cas on y est plus ou moins bien puisqu'on y est, mais le but étant de trouver un élément commun aux grévistes qui permettent de rassembler tout le monde. C'est ça le principe fondamental qui a aussi fait beaucoup la différence avec toutes les caisses de grève qui existent, ou les caisses de solidarité, qui souvent avaient soit une approche partisane, c'est-à-dire on ne collecte que pour nos camarades, c'est-à-dire de telle ou telle organisation, soit que d'un corps de métier, c'est-à-dire une approche corporatiste qui nous... alors on a connu ça dans mon syndicat pendant très longtemps, mais on s'en est extrait justement pour finalement venir aider globalement le mouvement social, et c'est le but aujourd'hui de la Caisse de solidarité, clairement d'assumer le fait d'aider tout le mouvement social dans cette lutte qui est finalement interprofessionnelle, en fait.
Voilà, c'est ça la nuance entre caisse de grève et caisse de solidarité.
Voilà.
Donc vous êtes une caisse de solidarité.
Complètement.
Tu donnes l'adresse internet pour ceux qui veulent faire des dons
Avec plaisir, on invite tout le monde à aller sur caisse-solidarité.fr.
Voilà,
c'est si simple.
C'est aussi simple. Et sont affichés les montants que vous avez récoltés jusqu'à présent.
En temps réel, parce qu'on tient, et c'est un autre aspect de cette initiative qui avec le temps c'est c'est habitué, c'est modernisé, amélioré, professionnalisé, si on devait parler un peu avec certains termes comme ça, qui a comme deuxième vocation importante, c'est d'être totalement transparente. Et ça, on y tient.
Oui.
C'est que on considère qu'avec toutes les affaires ou la suspicion qu'il peut y avoir autour de l'argent, et c'est un sujet tabou, on a tenu tout de suite à dire... on montre nos 4 pattes blanches s'il faut, mais on veut que ça soit un dispositif vertueux et qui soit pas contestable ou discutable, en assurant auprès des donateurs, voire même auprès du grand public, la totale transparence sur tout ce qui est donné comme ce qui est donné aux grévistes. C'est-à-dire qu'on peut savoir sur le site, par exemple, qui a donné, à qui va l'argent, et dans quel secteur, dans quel endroit. Donc il y a une traçabilité finalement des fonds qui permet aux donateurs de savoir en gros comment son argent est utilisé.
Bon, merci Romain. On va faire une pause et on va revenir en deuxième partie pour expliquer.
Avec plaisir.
L'infocom.
T'es la flicaille des gens honnêtes, avec un œil dans nos assiettes. Tu fais le beau sorti de l'usine, l'air agrippant de Steve McQueen. Les pigeons font sur nos toitures ce que tu fais toi sur nos voitures. Autant qu'ils visent les monuments, que toi t'évites les gouvernants. T'es qu'un flic de Paris. T'es qu'un flic de Paris. T'es qu'un flic de Paris. T'as l'avancement qui se croise les doigts dans les idées. Lorsque t'en as, tu touches à droite pour le turbin, tu votes à gauche pour faire du bien. Comme une pommade qu'on répartit, t'es la perrine et rien en dessous. De la bonne bouche, assermentée, gonflée au nom de la société.
dans le panier de la connerie. Tu vas taper sur les gars qui n'ont pas voulu. Marcher tout droit avec ton odeur n'impressionne pas. Tu diras que tu fais ton boulot, t'es pas payé pour le cerveau. Heureusement qu'on fait ça pour ça, parce que sinon tu boufferais quoi? Bah tu boufferais peut-être les flics de Paris. C'était peu, tu as l'esprit, tu bois un peu. Moi tu parles coups de regret, moi tu parles coups de projet. Si tu fous tes amis, recours pour un danger qui tient le coup. Car le ridicule qu'on donne, c'est ça le moins qui tue personne. C'est toi quand on pose des questions, c'est pas un coup de conversation. Même quand t'interroges le bon Dieu, ne ressort jamais avec des bleus. De te rendre utile en uniforme ou en civil, t'as beau bouffer du gargantuan, t'es jamais qu'à la fin de l'état. Et un putain de flic de Paris. Un flic de Paris. Un flic de Paris. Un flic de C'est pas fini. Charles Pasqua, si tu m'écoutes, enveloppé de ta sépulture, on te sortira de la préfecture pour un petit coin à concession où on fera pousser des bâtons. En attendant, tu fais des petits, tu pousses le soleil de Paris pour que continue la synthèse de cette spécialité française qui est le flic, le putain de flic de Pau.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM en région parisienne et sur le net pour le reste du monde. Aujourd'hui, nous sommes en deuxième partie de l'émission avec Romain Altman sur la caisse de solidarité Infocom et non pas la caisse de grève. Mmh. On a expliqué la nuance. Alors, Romain, les caisses de grève ou ta caisse de solidarité, c'est un rapport de force nouveau avec les entreprises qui font pression sur les salariés pour qu'ils arrêtent la grève, justement.
Alors, une précision, d'ailleurs, c'est pas la caisse de grève que d'Infocom, mais c'est bien une caisse, pardon, de solidarité, comme tu l'as dit.
Interprofessionnelle.
Interprofessionnelle, et on dit même, nous, intersyndicale, puisque elle n'est pas que gérée par Infocom, elle est gérée avec Sudpost 92. En tout cas, le dispositif que l'on a, finalement, a permis, effectivement, de renouveler le genre des caisses qui pouvaient exister jusqu'à maintenant. Et on s'est rendu compte qu'avec le temps, puisque ça fait maintenant 7 ans qu'on mène cette initiative, c'est devenu finalement les caisses de solidarité un véritable outil au service de la lutte et qui prend une place de plus en plus importante, surtout dans un contexte de tension salariale ou d'inflation qui rend plus difficile le fait d'exercer son droit de grève pour un certain nombre de grévistes, dans un contexte où le pouvoir d'achat, évidemment, est compliqué, tendu, et où faire grève peut avoir beaucoup plus de conséquences, peut-être, que d'autres périodes qu'on a pu connaître récemment. En ça, en tout cas, nous, ce qu'on constate, c'est qu'autant en 2016, d'ailleurs, les chiffres que l'on a sont assez probants, en 2016, quand on a créé cette caisse de solidarité, on était les seuls à organiser ce type d'initiative nationale interprofessionnelle, même s'il pouvait exister des caisses de grève ou des caisses de solidarité localement ou pour un conflit, mais en tout cas pas de manière aussi large que on a pu réussir à le créer. Et très vite, on a vu que ce phénomène s'est multiplié, développé, surtout à l'aide du numérique d'ailleurs. Mmh. Et en 2020, par exemple, on avait un camarade qui avait recensé donc toutes les caisses de grève dans le conflit. On était quasiment à 400 caisses de grève déjà, locales, nationales, régionales, interprofessionnelles. Donc ça montrait véritablement la démocratisation de cette pratique. Et alors, on n'a pas fait le recensement pour cette année. Par contre, cette année, on y viendra plus tard, mais c'est sûr que on a crevé tous les plafonds, parce que c'est une pratique qui s'est encore plus développée. Et on montre bien, finalement, que cet outil ne vient pas remplacer la grève. Ça, c'est un débat important à avoir, c'est que ce n'est pas fait pour remplacer ou pour se donner bonne conscience. En tout cas, nous, le sens qu'on y donne à notre caisse, c'est vraiment l'outil qui sert dans la lutte, et pas d'ailleurs a posteriori de la lutte. C'est bien pendant le conflit que d'ailleurs, souvent, la caisse de solidarité va remettre les chèques aux grévistes. C'est pour leur donner de la force, pour leur donner de la confiance et leur montrer qu'ils sont pas seuls, qu'on peut être déterminé et qu'on l'est autant qu'eux, et que cet argent qu'on vient leur apporter, qui est pas notre argent, qui est l'argent de milliers de donateurs, leur permet justement de tenir. C'est en ça que le renouveau, en tout cas, des caisses de grève, enfin de notre caisse de solidarité, a permis, est un marqueur dans l'idée que ça devient en tout cas une pratique courante et dont aujourd'hui tout le monde parle. Quand il y a conflit, il y a quasiment automatiquement maintenant question d'une caisse qui se pose, parce que on sait que l'affrontement au pouvoir patronal ou au pouvoir politique va être dur, va être violent et va être long. Et en ça, on n'a pas trouvé mieux, objectivement, aujourd'hui, que ce type de dispositif, en tout cas de renouveler son genre, parce que il y a une utilité vitale si on veut pouvoir gagner. Notre but, c'est de gagner. C'est pas de faire grève pour se faire plaisir.
Alors, on va arriver aux montants.
Les montants.
Alors, Romain, on t'écoute pour les montants.
Bah, les montants, si on parle de ce conflit, en tout cas en cours...
sur les retraites.
Sur les retraites 2023, on est là, à l'heure où je vous parle, pas loin des 4 millions d'euros donc collectés depuis le 10 janvier, pour être précis. C'est le 10 janvier, c'est une date symbolique pour nous, c'est le jour où Elisabeth Borne a parlé à la télé pour annoncer sa réforme. Et nous, quand on a vu ça, tout de suite, on a envoyé un mail à tous nos donateurs. On en avait à l'époque 40 000 en janvier. Et donc, on leur a dit, voilà, il se passe quelque chose de grave. Le gouvernement veut amputer nos droits, de nouveau, nos droits sociaux. En l'occurrence, le droit de partir à la retraite dignement. Et donc, on se met en configuration d'organiser la solidarité financière, parce qu'on sait que ça va être une lutte qui est dure, qui va être longue. Mmh. Ce constat-là, quand on l'a lancé, au début, on peut pas. Il y a eu des dons, mais il n'y a pas eu une avalanche de dons tout de suite. Ça est venu avec le temps, particulièrement à partir du mois de février et mars surtout, où finalement les gens, on le constate, donnent, ou en tout cas, c'est peut-être un débat d'ailleurs à avoir avec les donateurs et les gens, le grand public, c'est que souvent les gens donnent au moment où le conflit est le plus dur, où le conflit, ils puissent le voir, ou qu'ils peuvent en constater les effets dans les médias ou dans leur vie quotidienne. Et c'est là où l'avalanche de dons est arrivée, puisque en quelques semaines, pour ce qui est de ce mouvement, on n'a jamais, par exemple, collecté autant d'argent que ce mouvement-là. Le dernier, pour un indicateur, hein, le dernier mouvement, on avait collecté 3,2 millions d'euros, tout compris. Mm-hmm. Là, on est déjà à bientôt 4 millions d'euros. Et le conflit, en tout cas pour nous, n'est pas terminé.
Oui. On peut remercier les attachés de presse, Elisabeth Borne, Olivier...
Alors, ce qui est vrai, c'est que... Mais tu as tout à fait raison de le dire, Mariama. On a constaté, par exemple, qu'à chaque fois que Macron parlait,
oui,
ça déclenche une avalanche de dons. Mais ça, c'est vrai.
Ah ben.
Ou Elisabeth Borne, c'est des constats qu'on a fait. On a des graphiques qui montrent des pics de dons. En l'occurrence, quand il y a eu le 49-3.
Oui.
Et quand il y a eu l'intervention présidentielle, c'est les moments où il y a eu des pics de dons, mais incroyables. Et d'ailleurs, dans les records, on n'a pas que atteint un record dans le volume global, on a aussi par exemple atteint des records dans la somme collectée pour une journée. Le 23 mars par exemple, c'est pour nous une date importante qu'on va cocher d'une croix rouge, parce que alors que d'habitude les records qu'on avait eu c'était 150 000 euros de collectés dans la journée, le 23 mars cette année-là, on a collecté 405 000 euros dans la journée.
C'est les chiffres que j'avais entendu parler.
Voilà,
donc du coup je me suis permis d'appeler et de dire on change notre ordre d'arrivée, donc tu vas arriver
mais c'est
très
ça.
Vite.
Mais donc c'était incroyable parce que puis y a pas, c'est pas les seuls records. On a eu par exemple une donatrice qui a fait un don de 30 000 euros. Chose qu'on n'a jamais vue dans l'histoire de la Caisse de solidarité.
30 000 euros?
30 000 euros de fonds, de deniers personnels. Hein. On a eu par exemple des syndicats qui ont été clairement engagés dans la lutte ou à soutenir la lutte. Je pense notamment à deux d'entre eux dans les plus marquants. Ça a été un syndicat sud, donc dans la fonction publique territoriale, bon, qui ne souhaite pas donner son nom. Donc je respecte leur souhait de ce point de vue-là, mais qui a donné par exemple 100 000 euros. Ça c'était pareil, jamais vu. Pour comparaison, le plus gros don qu'on avait eu d'une organisation, et c'était pas un syndicat, c'était une fondation Emmaüs locale, on avait eu jusqu'à maintenant, je crois, le plus gros don c'était 10 000 euros. Donc ça donne une idée de finalement le degré d'engagement dans ce mouvement, en tout cas, de la population, des organisations, pour vraiment gagner face à Macron. Et pour un don personnel, le plus gros don qu'on avait jusqu'à maintenant, c'était 5 000 euros.
En tout cas, 30 000, ça, c'est 6 fois
30
plus.
30 000, c'est pour nous du jamais vu. Donc ça montre à la fois un engagement déterminé des gens qui sont pas forcément, d'ailleurs, pour le coup, militants, engagés à faire toutes les grèves, etc. Mais voilà, qui part, cet aspect financier montre un courage et une détermination à dire, mais lâchez pas, on est avec vous, tenez. Oui. Tenez bon, parce que pour tout le monde, cette réforme, elle est juste injuste et violente, quoi. Et donc, c'est en ça
elle
que c'est
assez... Elle est surtout très violente.
Ouais, en ça, elle est assez extraordinaire, cette solidarité, parce que elle permet de travailler justement des liens entre justement les grévistes, le grand public, les gens qui soutiennent, mais qui sont pas forcément salariés. D'ailleurs, il y a beaucoup de retraités qui donnent, hein, à peu près, on estime à un tiers dans les donateurs le nombre de retraités qui nous envoient des mots d'ailleurs même touchants, hein, des gens qui ont des fois 800 euros de retraite, 1000 euros de retraite, qui donnent 4, 5 euros, et qui disent d'ailleurs, enfin moi ça me donne chaque fois la chair de poule quand j'en parle, mais qui disent d'ailleurs dans leurs petits mots, voilà, j'ai pas beaucoup de retraite, mais moi j'ai pu bénéficier de la retraite à 60 ans, et j'aimerais que mes petits-enfants puissent en bénéficier, et donc je vous soutiens dans cette lutte. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des choses, qui clairement nous fait comprendre en quoi notre camp social, notre corps social, la classe ouvrière, en fait, pour aller vite, même si elle a évolué, eh ben, a tout intérêt à défendre ses intérêts ensemble par ces types de solidarité aussi, parce que c'est formidable, ça montre quand même, face au pouvoir en place, qu'ils peuvent pas, en tout cas, agir par rouleau compresseur, et que cette solidarité vient les mettre en difficulté, en tout cas, on l'espère. Et le but, c'est de gagner, puisque l'objectif pour nous, c'est quand même de gagner, d'empêcher cette réforme. Donc, voilà, c'est vraiment cette solidarité financière cette année, et à tout point de vue, pour nous, inédite. Et je pense même qu'il faut qu'on prolonge cette démarche-là par le fait de construire un outil permanent. C'est ce qu'on, nous, on a essayé de faire et qu'on développe. Par le fait que je pense qu'il faut que la classe ouvrière, que les gens qui sont salariés ou pas, se mettent même en position, si on peut parler un peu d'avenir, d'avoir une caisse permanente et qui vienne alimenter régulièrement, parce que ça c'est peut-être un peu le défaut qu'on peut reprocher à la caisse de solidarité ou des caisses de solidarité, c'est que les gens donnent au moment du conflit, mais finalement on pourrait presque se préparer une réserve pour préparer les prochains conflits, parce qu'on sait qu'avec ce gouvernement on va encore morfler, et donc nous c'est ce qu'on va leur proposer en tout cas.
Alors ce serait sur l'exemple de la CFDT qui a 140 millions je crois d'euros de réserves accumulées un quart de siècle.
À peu près, ouais, c'est à peu près ça, mais je pense qu'en tout cas...
Et qui peut donner 7,70 euros
de l'heure. Aux gens. C'est en tout cas, nous, une réflexion qu'on veut mener avec les donateurs, parce que la particularité de notre caisse, c'est que c'est pas ni Infocom ni Sudpost qui décident des règles, c'est les donateurs qui décident des règles. Donc, quand il y a une... En l'occurrence, on applique les règles qu'on a définies ensemble avec eux en 2016. On réfléchit là à faire évoluer les règles, d'ailleurs. Notamment à regarder comment... Peut-être on peut passer aujourd'hui, pour aller vite, la caisse de solidarité vient en aide à partir de 2 jours de grève consécutifs. On est en train de se poser la question, de réfléchir, on verra si les donateurs en sont d'accord, mais on réfléchit pourquoi pas à changer les règles en permettant peut-être à avoir 2 ou 3 jours de grève, pas forcément consécutifs, pour permettre à des publics qui sont pas forcément les plus inscrits dans la grève reconductible de pouvoir être aidés. On pense notamment à de nombreux salariés qui peuvent être précaires, qui peuvent des fois faire une journée ponctuelle, mais quand vous êtes à 2 ou 3 jours de grève dans le mois, même si c'est pas continu, on peut peut-être se dire que
il
peut y avoir une aide. Voilà, on réfléchit à ça parce qu'on voit bien que d'un point de vue pécunier, la conséquence est la même. La seule question après qu'il faut voir, c'est si on a les moyens d'honorer ça, parce que la difficulté, c'est pas qu'on voudrait pas aider tous les gens qui font une journée de grève, c'est qu'on n'aurait pas assez de fonds. Et c'est pour ça que ce débat avec la fonction qu'a la Caisse de solidarité, vu qu'on en a fait un outil public, grand public, et sous contrôle des donateurs, on se dit peut-être que, si les donateurs en sont d'accord, qu'on ait un véritable outil pérenne au service de la lutte, de tous, et pas que d'une partie, ou que de syndiqués de telle ou telle chapelle, peut-être qu'on pourrait mieux préparer les affrontements avec le pouvoir demain, ou un patron dans son entreprise, si tous les gens donnaient régulièrement, vous voyez, comme un don régulier qu'on pourrait faire pour une caisse de grève, comme quand on investit, finalement, évidemment, c'est pas notre cas, mais quand des gens, des fois, peuvent investir dans telle ou telle cause régulièrement pour prendre cette pratique régulière et ne pas attendre le moment du conflit pour le faire.
D'accord. Alors, 4 millions récoltés, combien de distribués et à qui ?
Alors,
c'est possible
pour
d'avoir l'information.
Mais bien sûr, on va tout dire, on n'a rien à cacher. Donc 4 millions distribués, concrètement, la nouveauté de cette année, c'est qu'on a permis la création de caisses de grève locales, c'est-à-dire donc on adossé à la caisse de solidarité, c'est-à-dire qu'en fait on a permis de devenir finalement comme une plateforme comme le pot commun ou l'Etchi. La différence notable, et ça je le dis pour nos auditeurs, que quand vous vous mettez sur ce type de plateforme, n'oubliez jamais que vous engraissez des banques. Parce que les banques prennent des commissions sur ces transactions. Et que nous, justement, on a créé ce dispositif pour contourner les GAFAM, justement, entre autres, ou les banques, et de faire un dispositif entièrement gratuit. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, quand vous êtes dans une boîte, vous pouvez créer votre caisse de grève avec la caisse de solidarité. Et tout l'argent que vous collectez sur cette caisse-là vous revient à 100%. Je parle aux grévistes, en l'occurrence, et nous, on prend aucun frais de fonctionnement et de plateforme, parce qu'on veut, finalement, aujourd'hui, gagner un nouveau statut, c'est de fédérer les caisses de solidarité et les caisses de grève. On veut arriver à être une communauté, d'une confédération, si on peut dire ça comme ça, de nos horizons, d'ailleurs très divers, hein, syndicaux ou pas, parce qu'on reconnaît aussi des coordinations de lutte, des AG de lutte, on reconnaît ce statut-là, on n'est pas obligé d'être dans une association ou dans un syndicat pour avoir une caisse de grève, locale en tout cas. Et donc, c'est ce qu'on essaie de faire. Là, on en a créé pour ce mouvement 70. Sur ces 4 millions donc d'euros, 300 000 euros à peu près sont dédiés à ces caisses de grève locales qui ont été collectées. Donc, il y a eu des éboueurs, un peu tous les secteurs qui ont mis ça. Donc, il reste sur ces 3,7 millions. Donc, aujourd'hui, 3,3 millions ont été distribués aux grévistes, donc dans tous les secteurs, principalement les cheminots en grande partie, des éboueurs, des enseignants, des raffineurs, des salariés du privé aussi, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns, quelques boîtes où il y a eu des luttes. Là, j'ai été remettre, par exemple, un chèque de 25 000 euros, pas plus tard que la semaine dernière, un combat emblématique qu'il y a dans la période pour les salaires des femmes qui travaillent à Verbaudet, donc à Marquette et Lille.
Qui sont très méprisées.
Exactement.
Et qui sont quasiment en dépôt de bilan, alors qu'elles ont travaillé pour des petits salaires. Et Verbaudet, c'était une marque excessivement chère.
Exactement. Et donc, qui ont là, en sont à 5 semaines de grève. Enfin, voilà. Un combat exemplaire mené par l'Union locale CGT de Tourcoing et qu'il faut, féliciter, soutenir cette pugnacité, cette lutte déterminée qu'ont ces salariés et eux, parce qu'elles sont majoritairement en plus des situations pas évidentes, hein, précaires, etc. Donc, voilà, en gros, pour l'instant, pour revenir à notre sujet, sur ces 3,7 millions, on a distribué 3,3 millions. Il reste à peu près, pour ne rien cacher aux auditeurs, 400 000 euros, un peu moins de 400 000 euros. Et on a honoré donc 144 dossiers collectifs, des dizaines de dossiers individuels. Et il nous reste, pour l'instant, parce que c'est pas fini, on a 47 dossiers collectifs encore à honorer. C'est pour ça que je me permets de faire un appel aussi aux auditeurs qui nous écoutent, mais n'hésitez pas à nous aider à relayer ce site internet pour que les gens fassent des dons, vous déjà si vous le pouvez, et surtout les gens autour de vous, parce qu'on a vraiment besoin encore d'aide, puisque l'argent pour honorer tous ces dossiers de grévistes, on aimerait que tout le monde au moins, pour l'instant, touche au moins une fois une aide de la Caisse de solidarité, et on va manquer d'argent parce que parce que voilà, le dispositif marche bien et que les grèves continuent, même si on les voit moins médiatiquement, et que avec le 1er mai, on espère que ça va relancer les mobilisations et les grèves un peu partout dans les différents secteurs. Donc si on veut en faire un outil permanent, c'est le moment de le prouver en actionnant tous nos réseaux. Et on essaye de faire une caisse de solidarité qui est assez ouverte et assez large pour que tout le monde puisse s'y retrouver sans qu'elle soit accaparée par tel ou tel groupe ou tendance politique ou je ne sais quoi. C'est en tout cas notre but et notre fonction, c'est ça, c'est qu'elle permette de rassembler le plus largement possible. Je termine en disant que quand même, justement, quand je disais que on a un mouvement inédit et aujourd'hui, on a au total près de 50 000 personnes qui ont fait un don cette année sur la caisse de solidarité. Si on compare au nombre de gens concernés par la réforme, ça montre quand même à la fois un score qui est tout à fait inédit, mais en même temps toutes les potentialités que ça offre, parce que on est quand même censé être 26 millions de salariés en France.
Oui.
Et donc on peut faire encore bien mieux, bien plus.
On a des marges de réserve.
Voilà, exactement. Donc c'est pour ça que je le dis, parce qu'aujourd'hui voilà, la caisse de solidarité depuis 2016 cumule 80 000 donateurs. C'est à la fois énorme parce que ça n'a jamais été centralisé comme ça, mais en même temps ça reste soyons francs entre nous, c'est appelé quand même à continuer son développement, parce que on est très loin d'un outil qui peut faire des ravages si on avait ne serait-ce qu'un million de donateurs, par exemple, même tournant d'ailleurs, pour une caisse de solidarité, vous voyez. Donc c'est vraiment un objectif pour le coup politique qu'il faut collectivement on se fixe.
Alors, voilà. Romain, tu vas redonner l'adresse internet.
Oui, la alors, donc, caisse-solidarité.fr. Alors, solidarité sans E à la fin, puisque dans l'URL, les E ne sont pas acceptés, comme tout le monde le sait, mais voilà, vous arrivez sur la page d'accueil et vous avez le choix de la plateforme. Soit vous pouvez utiliser HelloAsso, où il n'y a pas de frais de commission sur votre don. Par contre, vous pouvez faire un don libre en plus à HelloAsso. Soit, sinon, pour ceux qui ont plus l'habitude, c'est une plateforme qui, elle, prend des commissions. C'est ce qu'on, c'est PayPal, mais bon, voilà. On sait que PayPal bénéficie d'un capital confiance auprès des gens souvent important. Soit sinon, si vous êtes ni pour l'un ni pour l'autre, ou que vous n'avez pas confiance en plateforme numérique, et ben vous pouvez faire un chèque ou un virement, et donc il y a un autre bouton qui permet de vous donner les coordonnées postales, bancaires, pour faire un don régulier ou irrégulier ou ponctuel, comme vous voulez.
Merci Romain. Merci. Alors on va faire une pause et on va revenir en dernière partie.
Salut à toi peuple khmer, salut à toi l'algérien, salut à toi le tunisien, salut à toi Bangladesh, salut à toi peuple grec, salut à toi petit indien, salut à toi punk iranien, salut à toi rebelle afghan, salut à toi le dissident, salut à toi le chilien, salut à toi le petit malien, salut à toi le mohican, salut à toi peuple gitan, salut à toi l'éthiopien, salut à toi le tchadien, salut à vous les partisans, salut à toi chaud et allemande, salut à toi le vietnamien, salut à toi le cambodgien, salut à toi le japonais, salut à toi le thaïlandais, salut à toi le laotien, salut à toi le coréen, salut à toi le polonais, salut à toi l'irlandais, salut à toi l'européen, salut à toi le mongolien, salut à toi le hollandais, salut à toi le portugais, salut à toi le mexicain, salut à toi le marocain, salut à toi le libanais, salut à toi le pakistanais, salut à toi le philippin, salut à toi le jamaïcain, salut à toi le guyanais, salut à toi le togolais, salut à toi le guinéen, salut à toi le guadeloupéen, salut à toi le congolais, salut à toi le sénégalais, salut à toi l'afro-cubain, salut à toi le portoricain, salut à toi la haute volta, salut à toi le Nigeria, salut à toi le Gaboni, salut à toi le vieux ch'ti, salut à toi Che Guevara, salut au comité de soldats, salut à tous les hommes libres, salut à tous les apatrides, salut à toi la Vertaga, salut aussi à la Panda, salut à toi le punk anarchiste, salut à toi skin communiste, salut à toi le Liberia, salut à toi le Sri Lanka, salut à toi le Sandiniste, salut à toi les légendistes, salut le mouvement des jeunes arabes, salut à
toi, Guatemala. Salut Pekat, contingent. Salut à toi, le Chotopan. Salut à toi, Pop Canac. Salut à toi, Tchécoslovaque. Salut à tous les dragons. Salut à toi, qui es Chopon. Salut à toi, jeune malgache. Salut à toi, le Pop de Bac. Salut à toi, qui es au violon. Salut à toi, les Morocons. Salut à toi, le Yougoslav. Salut à toi, le Voyouslav. Salut à toi, le Salvador. Salut à toi, le Molodoy. Salut à toi, le Chinois. Salut à toi, le Zaïrois. Salut à toi, l'Espagnol. Salut à toi, le Ravachol. Salut à toi, le Hongrois. Salut à toi, l'Iroquois. Salut aussi à tous les Goths, des îles maudites jusqu'à l'Écosse. Salut à vous tous les Azous. Salut à la jeune garde rouge. Salut à toi, le peuple corse. Salut aux filles du Président. Salut à toi, la Vache-Kiri. Salut à Lorraine et à vous. Salut à toi, peuple nomade. Salut à tous les Kamawas. Salut à toutes les Vertigones. Salut aussi à Hugh Reiner. Salut à toi, l'handicapé. Salut, jeunesse du monde entier.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM, en région parisienne, et sur le net pour le reste du monde, nous sommes dans la dernière partie de notre émission sur la Caisse de Solidarité avec Romain Altman. Romain, tu vas nous expliquer précisément comment monter un dossier quand on cherche à se faire soutenir par la Caisse de Solidarité ou une caisse de grève, comment on monte un dossier, et tu vas nous expliquer le futur de la caisse.
Alors en fait, pour faire une demande, c'est il y a deux cas de figure qui peuvent se présenter. Soit vous êtes dans une entreprise où des syndicats mènent la lutte, et dans ce cas, c'est donc le syndicat, quel qu'il soit, qui doit déposer un dossier, en fait, où nous on lui demande de signer une charte de bon fonctionnement et de des fonds. Par exemple, la charte dit clairement que l'argent ne doit aller qu'aux grévistes et à rien d'autre. Elle ne vient pas, l'argent qu'on donne, ni financer une action, ni financer un syndicat, ni quoi que ce soit. Ça ne vient que pour aider les grévistes. Et cette charte, voilà, conditionne un certain nombre de règles de base, hein, qui est vise à, c'est une charte qui a d'ailleurs été élaborée avec les donateurs à l'époque pour assurer une transparence sur la démarche que l'on a. Et donc ce syndicat, en faisant sa demande, remplit une page qui permet d'évaluer un peu le taux de grévistes, la moyenne du nombre de grévistes en reconductible, le nombre de salariés d'entreprise. Et c'est en fonction de ça que nous on va pouvoir évaluer un don qu'on va ensuite lui verser. Pourquoi on passe par les syndicats? Déjà parce que on tient à le rappeler. Nous, on est un outil au service de la lutte, mais on ne veut pas assurer directement une indemnisation aux grévistes parce qu'on considère que le syndicat est le maillon essentiel localement qui doit jouer son rôle. Et la caisse de grève, la caisse de solidarité que nous, on représente, on ne veut pas se substituer au rôle du syndicat. Et le rôle du syndicat, justement, localement, c'est de vérifier les informations, de recenser et de collecter les données qui permet aux grévistes d'être indemnisés. C'est pour nous important. On pourrait avoir un système d'aide qui se fout des structures syndicales. Nous, en tout cas, c'est pas du tout notre démarche. On est un outil de la base pour la base. Ça, c'est important de le dire. Quand vous êtes un gréviste qui n'a pas de syndicat en lutte dans son entreprise, ou que vous êtes seul dans votre entreprise, ou qu'il n'existe pas de syndicat, à ce moment-là, là, pour le coup, on le traite directement au niveau de la Caisse de Solidarité au niveau national, où vous remplissez ce même dossier, et avec justificatif, principalement de votre fiche de paie, on permet d'évaluer un don. Grosso merdo, les dons que l'on fait peuvent aller de 15 à 40 euros d'aide par jour de grève constaté dès lors qu'il y a cette règle minimale de 2 jours consécutifs.
Voilà. D'accord.
C'est la manière concrète de pouvoir déposer un dossier. Alors, comment on fait? Bah, c'est simple, vous allez sur le site internet, on le rappelle, caisse-union-solidarité.fr, et dans le menu, vous verrez, il y a un onglet qui s'appelle fonctionnement, et en fait, ce PDF-là est dans cette page, vous pouvez le télécharger et nous le renvoyer. Mais ce qu'on essaye de faire, je le dis aussi pour nos auditeurs, parce que comme on a maintenant une certaine pratique et une certaine expérience, on est en train de réfléchir aussi à faire évoluer la caisse de solidarité, parce que on travaille actuellement à une V3 de la Caisse de Solidarité qui vise demain en fait à faciliter le travail justement des syndicats, parce qu'il y a un gros travail de collecte des fiches de paie, de vérification, et donc on a bon espoir. Il y a 2 projets qui nous tiennent à cœur. Le premier, c'est demain de pouvoir automatiser, de numériser toute demande d'une aide de la Caisse de Solidarité, c'est-à-dire qu'en fait le gréviste ira directement remplir son dossier en ligne et le syndicat recevra l'évaluation du don à faire en fonction des critères qui seront attribués localement, parce que ce qu'il faut préciser, c'est que quand on fait un don à un syndicat, nous, par exemple, on va prendre des enseignants d'un collège ou d'un lycée, nous on attribue un don, mais c'est eux qui, avec les grévistes, déterminent les règles de fonctionnement du don qu'on leur a donné. C'est-à-dire, par exemple, si je donne 10 000 euros, les grévistes localement, c'est pas nous qui leur imposons telle ou telle règle à appliquer, c'est eux qui disent, voilà, nous, dans notre collège, on voudrait, par exemple, plutôt aider les salariés qui sont précaires, ou aider de manière égale tous les grévistes en fonction du nombre de jours de grève. C'est aussi cette liberté-là qu'on permet quand on a un don de la Caisse de Solidarité. C'est important parce que ça permet d'adapter localement les réalités qu'on vit. Il y a des endroits, il y a des grévistes qui se sentent pas besoin d'avoir une aide parce qu'ils ont par ailleurs de l'argent de côté. Et d'autres endroits, bah, il y a effectivement des couples des fois qui sont en grève, et donc là, faut voir comment on peut les aider prioritairement. Donc c'est important parce que donc demain, dans cette nouvelle caisse de grève qui va, j'espère, arriver d'ici la fin de l'année 2023, tout ça va s'automatiser tout en respectant le rôle et la fonction de chacun, et qui permettra d'aller beaucoup plus vite parce que ça intégrera aussi le virement automatique sur le compte du collègue gréviste. Donc c'est un système entièrement automatisé où il n'y aura plus toute cette paperasse et toute ce travail qu'a à faire le syndicat. On va lui faciliter le boulot et finalement l'internaute aussi, ou gréviste aussi. Voilà, ça c'est le premier projet important que nous on porte. Et le deuxième est très politique, c'est que on a engagé une procédure juridique contre l'État en vue de faire reconnaître notre caisse de solidarité comme d'utilité publique. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on veut viser demain, c'est qu'il y ait une reconnaissance en France des caisses de solidarité ou des caisses de grève permettant de bénéficier, comme beaucoup d'autres associations dites caritatives, qui ont le bénéfice d'avantages fiscaux permettant de faire un don beaucoup plus conséquent que quand vous faites un don sans avantage fiscal. Voilà, c'est un projet qu'on a mené, ça fait 2 ans qu'on est dessus. On a pour l'instant utilisé tous les recours au ministère, mais je pense que nos auditeurs seront pas étonnés de savoir qu'avec le gouvernement qu'on a, ils ont tout fait pour bloquer et refuser notre demande. Mais là, donc, on les a maintenant attaqués en justice, et donc on espère avoir un premier jugement d'ici la fin de l'année, dont l'intérêt est quoi? Bah, tout simplement de reconnaître une défiscalisation des dons, ce qui permettrait à un donateur, en gros, de donner 3 fois plus pour la même somme donnée au départ, puisque aujourd'hui les organismes d'intérêt public peuvent avoir une déduction fiscale de l'ordre de 66%.
Oui.
Quand on fait un don, quand c'est à une association ou autre, et on pense que c'est important, alors ça serait déjà inédit si on l'obtient.
Mais oui, sachant mais... le ministre de l'Intérieur que nous avons.
Exactement, mais on pense que on a des bonnes chances, on l'espère en tout cas, d'aboutir, et parce que si on considère, et c'est dit dans notre constitution, que la grève est un droit constitutionnel,
oui,
pourquoi le soutien à des grévistes ne pourrait pas bénéficier, alors que c'est constitutionnel justement, de cette aide ou cet avantage fiscal? Alors ça peut paraître pécunier pour ceux qui nous écoutent, mais c'est important parce que aujourd'hui, malheureusement, on ne bénéficie pas de ça, et beaucoup de gens nous disent, mais si vous aviez ce label là, cette déduction fiscale là, je pourrais donner évidemment 3 fois plus en fait. Donc c'est pour ça que c'est un chantier qu'on a mené depuis maintenant 2 ans, mais qu'on va avoir cette année, et c'est pour ça qu'on va aussi appeler, objectivement, je vais pas m'en cacher, on va appeler les auditeurs et les donateurs à nous aider à financer, parce que c'est évidemment l'avocat, c'est pas gratuit.
Ah non, c'est une bataille judiciaire.
Voilà, et donc on va là, parce que pour l'instant tous les frais de la caisse, c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, de fonctionnement de la caisse de solidarité, rien n'est pris sur les dons que font les gens aux grévistes. Tout a été financé par Infocom CGT ou Sudpost 92, dans l'idée que justement on ne vienne pas ponctionner le moindre euro sur les dons des gens. Mais il est clair qu'aujourd'hui, vu la taille et vu l'ampleur que prend la caisse de solidarité, on va être contraint, parce qu'on peut pas à nos seuls budgets tout financer, on va proposer aux donateurs de dire, de toute façon c'est votre outil aussi, nous on en est que des gérants, on est que vos représentants quelque part, donc on va proposer aux donateurs de pouvoir donner spécifiquement au fonctionnement de la caisse, parce qu'il y a quand même des frais, qu'on le veuille ou non, même si nous on évite qu'il y ait des frais pour la caisse, mais il y a du temps humain forcément, il y a des flyers à imprimer, il y a des budgets un peu de promotion qu'on est obligé de mettre sur les réseaux sociaux pour faire connaître la caisse auprès des gens qu'on ne connaît pas.
Très efficace.
Voilà, donc c'est pour ça qu'on va vous voyez, dans les projets qui à venir, on va pas s'arrêter là, en tout cas, ça faut que les auditeurs le comprennent et qu'on compte sur eux pour nous aider à relayer ça, et à nous aider, même pourquoi pas s'ils le souhaitent, à nous donner un coup de main, parce que tous les camarades et les gens qui nous aident, qu'on qualifie nous d'ambassadeurs, c'est finalement eux les meilleurs promoteurs de cette initiative ouvrière qu'on veut vraiment pérenniser, quoi.
Alors dans l'entretien de Mediapart, il dit que à la fin du 19e siècle, les chambres syndicales apparaissent et prennent le relais des sociétés de secours. Parce qu'avant, les grèves étant illégales, il y avait des sociétés de secours qui prenaient en charge, y compris les frais d'enterrement, parce qu'il n'y avait rien pour protéger la classe ouvrière. Donc, les grèves commencent à toucher les grandes masses ouvrières et cela exige des quantités d'argent qui dépassent les fonds disponibles. Donc, l'aide repose de moins en moins sur l'accumulation de fonds, mais sur des appels aux dons ou la solidarité extérieure. Donc plus tard, les structures syndicales auront un rôle d'intermédiaire en centralisant et en redistribuant les dons. Donc, quels sont, dans cette perspective historique, vous positionnez sur quelle continuité, et qu'est-ce que vous envisagez en plus de devenir d'utilité publique, si vous gagnez contre Darmanin,
on espère bien, et puis
j'espère qu'il en fera une maladie.
En tout cas, on utilisera tous les recours, et c'est pour ça que ça, c'est un investissement, si je peux parler ainsi, utile à la classe ouvrière, c'est que ce type de démarche juridique, c'est pour ça qu'elle est coûteuse, mais elle est importante, parce que évidemment que le gouvernement va pas nous laisser gagner en première instance comme ça. Je pense qu'ils feront appel, voire même on ira en cours de cassation.
Mais, ah oui, c'est sûr.
En tout cas, on a bon espoir d'aboutir, parce que la base juridique de notre argumentaire, elle se tient, et en plus, notre caisse de solidarité est universelle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas discriminante, parce que souvent, le caractère d'utilité publique doit être reconnu quand il n'y a pas de caractère restrictif à l'aide ou à le fait de bénéficier de tel ou tel dispositif, ce qui est en l'occurrence notre cas, puisque nous, justement, on n'a pas voulu rentrer dans cette logique d'aider que des syndiqués ou d'aider que des syndiqués de telle ou telle chapelle. Donc ça, on verra, mais en tout cas, on lâchera pas ni Darmanin ni tous les autres, d'ailleurs, qui le savent, s'ils nous écoutent, sachez-le, on n'a pas dit notre dernier mot de ce point de vue-là. Après, sur la fonction de la question de la thé, je pense que c'est un peu des deux, finalement. C'est que t'as un croisement à la fois d'un dispositif qui n'existe pas ou peu aujourd'hui dans les syndicats organisés, peut-être à mon goût un peu trop institutionnalisés d'ailleurs, et qui renoue finalement avec des pratiques qui articulent une forme semi-organisé, parce qu'il faut quand même des gens pour gérer un dispositif pérenne, mais qui arrive à être assez ouvert et assez large pour pouvoir aller financer ce type d'outils et de lutte avec un grand public qui n'est pas forcément organisé. Donc finalement, on a peut-être, même de manière hybride, peut-être les bases d'un rassemblement syndical nouveau. Je sais pas, on n'a pas pensé forcément à ça, nous, à la caisse de salaire, mais ça peut être une des réflexions d'essayer de transcender finalement les formes existantes de syndicalisme très structurées et enfermées, chacun dans sa centrale, avec cet outil, finalement, quelque chose d'assez transversal, qui pour le coup nous réunit, sans être dans des silos, voilà, et être enfermé dans chacun dans des structures, parce qu'aujourd'hui, c'est l'avantage, par exemple, de la Caisse de solidarité, c'est que les collectifs de lutte ou les collectifs auto-organisés, on les reconnaît comme tels, comme des syndicats d'ailleurs. C'est aussi intéressant parce qu'on ne reconnaît pas que des structures dites légales. On reconnaît aussi des formes de lutte, entre guillemets, non organisées officiellement ou qui sont pas forcément structurées en forme associative. Donc, c'est peut-être un peu tout ça. Donc, écoute, en tout cas, je pense que c'est une nouvelle démarche peut-être qui montre que une nouvelle forme de rassemblement de syndicalistes combatifs, de gens qui sont pour lutter, permettent avec cette caisse de solidarité. Ouais, je pense que tu as peut-être un bout de la réponse autour de ça. Ouais.
Merci Romain.
Merci à toi.
Alors, on rappelle Romain l'adresse internet de la caisse.
Oui, il faut toujours le rappeler. Donc c'est caisse-solidarité.fr et vous avez tous les moyens à votre disposition pour pouvoir contribuer à la hauteur de vos moyens. On le dit, c'est important. Il faut que chacun participe à la hauteur de ses moyens et ne pas se forcer. Le but étant pas de vous mettre en difficulté, mais bien d'apporter une solidarité, même si elle est symbolique, elle est pour nous tout aussi importante que des records ou des dons qu'on peut avoir. L'important étant de participer à la lutte.
Oui, c'est comme au sport.
Et c'est ça.
L'important, c'est de participer. Bien. Chers auditeurs, je vous remercie de votre écoute. Je vous dis, faites attention à vous, notamment quand vous allez manifester contre la réforme des retraites, en particulier, ou contre ce qui nous attend. Romain, tu es au courant, la loi travail.
Oui, entre autres, oui.
Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien et faites attention à vous. Merci beaucoup.
Merci à tous.
Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, sur vos roues j'ai perdu mes dents, sur vos roues j'ai vu la fête, le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins, le vent, j'ai dessiné en 1027, interrogez les rues d'un gars sans oublier les rues de Lafayette, ils vous diront il faut avoir un grain, sur les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite, je n'ai jamais dit que c'était sain, je conduisais une camionnette, sincèrement j'ignorais le tas, cela peut arriver aux prophètes, Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, ou moi casse les lunettes, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perds la tête. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me petit futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Et moi je joue le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. Moi interdit le territoire, j'ai fait appel à Marche ou Crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes du toute Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musée, l'aura jamais de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, j'entends Hitler. Mon père, il a défendu la source et les artères. Dans les tenues de son fils numéro 1. Mais j'excuse les lésés si j'ai plus de freins. Si je laisse le moisi, adieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me petit futur, l'angoisse pour de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge, tu juges, ce qui est mon sujet, tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, ça j'ai des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie des câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés, j'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'un âne m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui, c'est vrai qu'un âne, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance, mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me petit futur, l'angoisse vous de la preuve. Arthur.
Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, ne vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de mes petits futurs, l'angoisse vous de la preuve. La rage.
Bravo!
Hey!
Waouh, quelle fin!
C'était Karim
Quoi ?
C'était Karim.
Non, c'était Ozzy.
Ah bah, oh, salut.
Albat.
Salut, et c'est Johan.
Ouais. Ouais, ouais.
Voilà, sur Radio Libertaire, la radio 89.4, dans Veux-tu, en v'là.
Ouais.
C'est mieux comme ça.
C'est comme ça, c'est dans cet ordre, à peu près.
Ouais, c'est ça. Wow. Trop bien. Bien joué.
Waouh.
Bien joué, c'est quoi, ça, c'est quoi cette petite flûte, là ?
C'est une petite flûte grecque ramenée par mon ami Thomas de son séjour là-bas. Je l'embrasse bien fort et je le remercie. Il y a écrit Ozzy en grec dessus. Et ben, ça s'écrit exactement pareil que chez nous.
Et ça se prononce ?
Je pense que ça se prononce pareil aussi. Hein.
Oh putain. Bravo.
Voilà, il va y avoir des petites interventions à la flûte coulissante. C'était quoi qu'on a écouté là, ce morceau d'introduction, Karim ?
Là, on vient d'écouter Aya.
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 Je sais pas comment ça se dit.
Oh.
Aya. Ya.
Aya. Aya.
Oh le bâtard. Oh le bâtard. T'es chaud. Putain. Bah voilà. Aya. Donc ça s'écrit A Y Y A.
Je suis sûr que ça s'écrit pareil.
Voilà. Avec des points d'exclamation de toutes parts. Ils sont très. Je pense qu'ils aiment bien créer des surprises, d'où leur musique très surprenante.
C'est des latinos ?
Non, c'est pas des latinos. Ah. Non, non, ils viennent de Nancy.
Parce que les latinos sont généralement très surprenants.
Ah ouais, ouais. Pourquoi ?
Je sais pas, ils créent la surprise, quoi.
Ah ouais ?
Ils sont toujours là, on les attend pas. C'est le truc des latinos, quoi.
Ah ouais ?
Ouais.
Je comprends pas pourquoi, mais. C'est peut-être un fait étonnant que toi.
Non, parce que c'est, oui, bah c'est un fait, quoi. C'est rien d'étonnant. Je crois que ça étonne personne. Enfin, t'as jamais remarqué, t'es dans un bistrot et tout, et boum, il y a un latino. Et
putain. Non, ça m'est jamais arrivé encore.
Ok. Bon.
Mais voilà. Aya, du coup, vous pourrez les voir avec Tobo et Capar. Et Capar. Trois groupes du coup qui joueront au Cirque Électrique le dimanche 7 mai. Donc voilà, comme d'habitude au Cirque Électrique, le dimanche, ça commence un peu plus tôt.
Ok.
Donc à 20h. Et c'est 5 euros. Donc Aya qui vient de Nancy, c'est un duo guitare-batterie. Ok. Tobo, du coup, c'est un duo guitare-batterie aussi.
Ah oui.
qui viennent de Lille. C'est plus rock-prog, comme tu as pu écouter tout à l'heure. Ou Frank Zappa, peut-être un peu.
Ouais,
influence
ouais,
Frank
ouais,
Zappa
oui,
un peu.
Oui, lointaine. Hein, lointaines influences. Dodo. Frank Zappa, Dodo la nuit.
Donc voilà, et il y aura aussi Capar. Capar qui vient de Paris et qui est un nouveau groupe de Philippe Tiffen. Voilà.
Hubert Félix Tiffen Hubert Philippe Tiffen
Non. Félix le chat et. Je sais pas, Toufik Non, Philippe Tiffen. Philippe Tiffen, qui. Je crois qu'il joue. C'est le chanteur de. Enfin, qui joue dans Helio Gabal, je crois. Comme ça.
Ah, ok. Ouais,
qui a plein de petits projets assez foufou et assez cool.
Trop bien.
Voilà. Bah, donc, écoute, ça, c'est le premier concert de.
Et c'est aussi.
C'est le premier concert d'avril de Veux-tu en v'là. C'est encore un gros mois. Donc, comme mars.
Ouais,
8
bien
dates.
Chargé, bien chargé.
8
hein.
dates. Donc, il va falloir suivre la cadence. Donc, on va passer beaucoup, beaucoup de groupes.
Ouais.
Et ça va s'enchaîner assez vite. Donc voilà. Le prochain concert, le concert d'après, ce sera Joey Molinaro et Eugène Moderne. Et c'est juste 3 jours après. Et c'est aux Amars.
Ok.
Voilà. Okay. Dans les Amars, on se marre bien.
Ouais.
Et on amasse beaucoup de marres. De café. et du coup, voilà, si vous venez avec votre marre de café, l'entrée est à prix libre.
Ah ouais, voilà. Tu sais que ça se recycle, le marre de café, on peut en faire du substrat pour les champignons.
Ah, c'est. Ouais. C'est pour ça qu'ils le récoltent, ouais. Dans les bio machin.
Ouais, c'est cool.
Ouais, c'est grave cool. Et du coup, Joey Molinaro, c'est un solo qui, comme tu le disais, tourne en bécane.
Ouais, c'est un Américain.
Voilà, c'est un Américain.
C'est un Américain, il a une grosse moto.
Ouais.
Et il fait sa tournée tout seul parce que c'est un Américain.
Est-ce que tu penses qu'il est latino? Parce qu'il s'appelle Molinaro, quand même.
Ouais, ça sonne un petit peu latino, mais après, je l'ai vu et il est bien texan. Hein. Ouais. C'est un Texan. Hein.
Ouais, ouais.
Et ouais, non, il est
donc
très
juste
cool,
de son visage, tu trouves qu'il est pas latino.
Ouais, ouais, ouais. Il a le physique des Texans.
D'accord.
La physionomie texane.
Et voilà, du coup, lui, c'est juste, il fait du violon.
Ouais, et de la double pédale, non, il n'avait pas une espèce de...
Ouais.
Comme Mr. Marcaille, un peu.
Il fait des claquettes sur une planche de bois voilà. En faisant de la double pédale.
Ouais.
Et il fait un genre de black metal avec un violon et il crie.
Ouais, et puis non, mais il y a des textes, c'est très engagé. Enfin, c'est un mec, il en a gros sur la patate, Joey Molinaro.
Ah ouais.
C'est un homme libre. Rien que sa démarche de c'est le rebelle, quoi.
Ouais.
Il roule du côté du Dakota, un renégat parmi les renégats, quoi.
Ouais, alors j'ai pas trop fait gaffe à ses paroles, je t'avoue, comme si il chante en anglais et qu'il crie.
Ouais,
Mais ouais. Et ce sera avec aussi Eugène Moderne, donc Eugène Moderne qui est un groupe avec des membres de l'organisation du Cirque Électrique.
Ah,
donc voilà, qui fait le cabaret à chaque fois.
Ah.
Et donc eux, en fait, ils font des reprises de. En fait, c'est pas des reprises, c'est ils composent de la musique sur des textes de Eugène Durif. Donc je ne sais pas qui c'est.
Bah moi non plus, je t'avoue.
Donc,
on passe pour des cons, là. On passe encore pour des cons.
Et voilà, du coup, ça c'est le mercredi 10 mai aux Amars. Et on va
très
passer
bien.
Un morceau de Joey Molinaro.
Bah ouais.
Qui est tout récent, puisqu'il n'y a pas de date.
Joey Molinaro, un Américain libre.
Et c'est avec... Le morceau s'appelle Richard Scarry.
And feeling thus disenfranchised, our hero looks on at society with great envy. Disguised as vindictive criticism, and learns nothing. Mr. B hops to the Circle K, little thief cops his head away. Dr. D trots with a swinging tail, chocolatey these spots on fingernails. Townsfolk dwell, shower hot stew. How we smell, out of the womb. Chickadee C is particular, never says please or thank you, sir. Aunt Betty sleeps to a dial tone, happily dreams to die alone. Townsfolk dwell, sour hot stew. How we smell, out of the womb. We'll be right back.
Jamy.
Eh oui, Jamy carrément.
Alors, fait étonnant, je savais que Jamy, justement, récemment, il a avoué qu'il croyait en Dieu. Et tous mes idéaux, toute mon enfance est partie en fumée quand j'ai appris ça, quoi. Je me suis dit, cet homme de science, réduit à l'obscurantisme religieux, Jamy, en fait, créationniste, ne croit pas aux dinosaures et il pense que Dieu a tout créé, quoi.
Ok.
Salaud. Salaud, Jamy.
Ça doit être dur.
Mais est-ce que tu peux croire en Dieu et croire en dinosaures?
Bah, en général, pas trop. Hein.
Ah ouais?
Ouais, il réfute bien tout ça, toute l'évolution. C'est souvent réfuté, quoi.
Mais on n'est pas censé descendre des dinosaures, mec?
Non, mais tu vois, ça fait
c'est
partie.
Pas l'évolution et le truc. À l'évolution, non.
Il y a certains catholiques qui croient aux dinosaures et d'autres non.
Ah ouais.
Et il y en a qui disent qu'il y en avait dans l'Arche de Noé.
Hein?
Et d'autres qui disent que c'est des conneries.
N'importe quoi.
C'est n'importe quoi. C'était... Ni Dieu ni maître.
C'est
ni Dieu ni maître.
Ni dinosaures.
Ah si, des dinosaures.
Au supermarché, mec, genre, il y a tout le temps des dinosaures.
Bah ouais, des dinosaures russes.
Ah, c'est des dinosaures russes.
Ouais.
Ah, ok. C'est en Russie, pas ok, d'accord. Yeah.
Donc voilà, on a écouté.
Merci pour ce fait étonnant.
Ultrafona.
Ouais. Ultrafona. Alors, avec un pH.
Ouais. C'était un pH neutre.
C'est oh putain.
C'était joli, franchement, j'ai pris du plaisir à écouter ça, c'était agréable. Et donc il y a des membres de APAT dedans, c'est ça.
C'est ça.
Ça expliquerait cette légèreté.
A.P.A.T.
T majuscule, T minuscule même, je crois, non?
C'est il y a un truc A minuscule, P majuscule, A minuscule, T majuscule, T minuscule.
C'est trop, ouais, c'est super bien.
C'est un super groupe je crois qu'ils viennent de... Enfin, c'est en Angleterre, je crois que c'est Liverpool. Ouais. Ils viennent de Liverpool.
Ouais,
je sais pas si ça existe encore, mais c'était un super concert qu'on avait organisé aussi, qui était super.
Ouais. Et beaucoup d'aisance, beaucoup de légèreté, beaucoup d'humour dans cette musique.
Ouais.
Et beaucoup de virtuosité, quoi.
Donc la chanteuse c'est Dorothy Wave, du coup de Apat. Et ensuite c'est des membres que moi je connais mais que vous connaissez pas, mais des membres de Extra Life, de Kayodot.
Ah oui, voilà. T'es Extra Life, ouais. Ils sont partout.
Il y a Tim Baharis au violon, pour ceux qui connaissent. Et alors eux, en fait, on va pour les voir dans une très grosse date, en fait. Ça va être une très grosse date. C'est le samedi 13 mai. Et en fait, c'est la première fois qu'on va inaugurer un lieu, en fait, avec En veux-tu, en voilà, qui s'appelle le Dunois. Okay. Et c'est encore gars avec une asso qui s'appelle Chronos, avec qui on a déjà fait... avec qui, moi, j'ai déjà travaillé. Qui font des concerts assez incroyables avec des très bons groupes et tout. Et je sais pas trop comment ça va se passer encore. Ça a l'air d'être un truc un peu, c'est un peu flou. Apparemment, c'est nous qui allons gérer le bar.
Ah ouais,
okay. Ouais. Je sais pas trop. Mais en tout cas, il y a plein de groupes qui viennent un peu de partout, quoi. Donc avec Ultrafauna, il y aura aussi Love Computer. Alors ça, je connais pas. Il y a aussi Phi. Voilà, je connais pas non plus. Ça, c'est la partie Chronos. Il y a Plomb, donc les Parisiens qui font du post-punk, et Jour J Mental, okay, ouais. de Lille, voilà, qui est plutôt noise rock, qu'on a déjà fait jouer. Et voilà, donc au niveau des infos, je peux pas trop vous aider. C'est le samedi 13 mai au Dunois. Je ne sais même pas où est cette salle encore.
Ok, waouh.
Donc, il n'y a même pas encore d'event, tout ça. mais ça risque d'être une grosse stuff. Très grave, moyen que ce soit, bien.
Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une grosse stuff, quoi, avec plein de groupes et tout.
Ouais.
Avec d'autres assos, machin, c'est bien. Voilà, on va se faire des nouveaux amis. C'est très bien.
C'est ça, ouais, 5 groupes, du coup.
Mais c'est sur Paris, c'est Paris intramuros.
C'est Paris, ouais.
C'est pas la banlieue.
Je crois que c'est dans le 13e, je suis pas sûr, mais je crois que c'est.
Ok.
C'est là-bas, quoi.
Oh, ok.
Et du coup, la date d'après qu'on va présenter, c'est le vendredi 26 mai.
Ok.
Et du coup, c'est. Ah non, pardon, non, c'est pas ça, c'est le jeudi 18 mai. Pardon, je suis complètement.
Mais on a beaucoup de dates aussi.
En fait, j'ai mangé trop de sucre, frère. Là, c'est le sugar rush. Les lutifies, mon gars.
C'est le sugar rush.
Et voilà. Et du coup, le jeudi 18 mai, c'est Asanka.
Ah.
Eddie Pou. Et ouais. Tedak. Et c'est au Cirque Électrique. Donc.
quoi? Tu vas voir. Il y a un concert ce soir. Qu'est-ce que tu vas voir?
Tromblon.
Asanka. Eddie Pou. C'était quoi?
Tedak.
Ok, bon bah je te laisse.
Ah, du coup Asanka qu'on a accueilli plusieurs fois, donc qui fait du synthé, des trucs électroniques, enfin avec des Wiimote, c'est ça?
Ok, c'est le gars Wiimote, ok, ouais.
Voilà, c'est un petit peu foufou, un peu genre. Bien, ouais. Chiptune, Bibit, tout ça.
Breakcore, ouais.
C'est ça. Avec plein de mélanges, c'est assez incroyable. Et Eddie Pou, du coup, c'est une toute meilleure personne qu'on accueille, qui vient d'Espagne. Ils ont fait un split ensemble avec SNK.
Ok.
Et Tedak, c'est aussi un très nouveau projet qu'on accueille pour la première
fois. C'est aussi un peu électro comme ça.
Ah, c'est très bizarre. C'est très bizarre. Il y a un côté électro-punk. Mais aussi, genre, des fois, mec, ça fait penser à Zwinkels, tu vois. Oula. Non, pas Zwinkels, comment dire... putain. Stupéflip.
Oulala, encore pire, mais ça fait peur ce que tu dis.
Bah ouais, non, bah, en vrai, tu vois, c'est pas si mal, tu vois, genre, c'est... Il y a un côté un petit peu, c'est rappé un peu, tu vois, mais pas trop. Genre, et puis c'est des paroles un petit peu engagées, la tête que tu fais, frère. Alors, Ozzy ne va pas venir à ce concert, on dirait. Donc voilà, bah, c'est un tout nouveau projet. Et en fait, je voulais mettre un morceau de Eddie Pou parce que c'est assez cool. Et comme on disait, on l'écoute tout à l'heure, c'est très en veux-tu envelable. Un côté très. C'est ultra zouk sans le zouk, comme tu as dit tout
exactement,
à l'heure.
Exactement, ouais.
Donc voilà, je vous laisse avec le morceau qui s'appelle. Oulala. C'est trop bizarre comment il s'appelle ce morceau. Il s'appelle Eddie Pou. Non, il s'appelle Elipou. Non, il s'appelle Lo Mas Nuevo. Voilà, donc c'est de Elipou. L'album s'appelle Elipou. Et c'est un split avec Asanka. Non, non, l'album il s'appelle Maxi Minimalisme. Voilà.
Ok, d'accord.
C'est parti pour Elipou.
Esto es Lo Mas Nuevo.